France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Infiniment et sans accident, ce sont où nous sommes les hauts plateaux des Andes qui s'étendent. Le sol est noir et sans accueil. C'est une terre volcanique. Qui n'aime pas les nuages, qu'ils ne viennent pas à l'équateur. Ce sont des chiens fidèles de la montagne, grands chiens fidèles. Couronnent hautement l'horizon. L'altitude du lieu est de 3000 mètres, qu'ils disent. Est dangereuse, qu'ils disent.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Je vous propose de garder entre nous ce que je vais vous dire et de ne pas le faire savoir à l'actuel président des États-Unis. Vous allez comprendre pourquoi. Au milieu du 19e siècle, en 1859, le président de l'Équateur, Gabriel Garcia Moreno, supplia Napoléon III de faire de son pays, à plus de 9000 km de distance, un protectorat français. Il expliqua qu'il était, je le cite, fatigué par la frénésie de la soldatesque et par l'agitation des démagogues, et qu'il souhaitait trouver, sous les auspices de la France, je le cite encore, la civilisation dans la paix et la liberté dans l'ordre. L'empereur, qui nourrissait alors d'autres desseins à plus proche distance, rejeta cette proposition surprenante. Elle n'en donne pas moins aujourd'hui l'envie d'y aller voir, de plus près, pour en discerner le ressort. Nous allons parler de l'Équateur, afin de tâcher de comprendre cette nation méconnue. Et d'abord, pour éclairer les raisons d'un mal-être qui s'est exprimé sur le long terme et qui se montre encore dans l'actualité. Les composantes en sont tout à la fois politiques, écologiques, ethniques, économiques, culturelles et religieuses, selon un déséquilibre qui favorise l'insécurité et le commerce des narcotrafiquants. Les richesses naturelles du pays échappent ainsi largement à la majorité de la population, non sans risque d'explosions diverses. Mais d'autre part, l'Équateur, dont la création fut improbable, a su affronter non sans mérite, non sans inventivité, des défis d'apparence insurmontable et finalement survivre. Pour démêler tout cela, j'ai convié Yves Saint-Jour. Il est l'un de nos meilleurs connaisseurs de l'Amérique latine tout entière et en particulier de l'Équateur, où il a séjourné jadis durant plusieurs années. Agrégé d'histoire, il a dirigé l'Institut français d'études andines avant de rejoindre la diplomatie pour être notamment notre ambassadeur au Brésil. Voilà bien, en somme, le meilleur des guides. Et pour commencer, un reportage de France 2, le 10 janvier 2024.
Une scène surréaliste. Un homme cagoulé, membre d'un cartel de la drogue, met en joue le présentateur d'une émission en plein direct. Il demande aux journalistes de faire partir les forces de l'ordre.
Que la police parte maintenant.
Un assaillant intime l'ordre aux journalistes de se mettre à genoux.
Regardez ce qu'on a. Regardez tout ça.
Des grenades, des explosifs, il en glissa dans la poche du présentateur. Ces trafiquants veulent parler à la télévision au chef de l'État qui leur a déclaré la guerre. Peu après, des tirs retentissent. On entend les cris des employés de la chaîne, terrorisés. Toute la scène est diffusée en direct avant que l'antenne ne soit coupée. Quelques minutes plus tard, la police intervient.
Jette ton arme! Restez calme, ne bougez pas.
Les forces de l'ordre avancent et maîtrisent les auteurs de cette tentative de prise d'otage. Personne n'a été tué, mais il y a plusieurs blessés. 13 assaillants sont arrêtés, menottés, puis sortis rapidement par les policiers. Un chaos sans précédent en Équateur depuis l'évasion dimanche de cet homme, Adolfo Macias, alias Fito, l'ennemi public numéro 1, chef d'un gang de 8000 hommes au cœur du trafic de cocaïne. Des mutineries seraient en cours dans plusieurs prisons.
Nous sommes prêts à mourir et à tuer des gardiens.
Le président équatorien élu en octobre dernier a juré d'éradiquer les bandes criminelles. Ces dernières heures, des dizaines de policiers pourchassaient les trafiquants dans les rues de Guayaquil.
Yves Saint-Jour, bonjour.
Bonjour.
Ai-je tort d'ouvrir notre conversation sur la violence de ce pays ?
Non, vous n'avez pas tort, parce qu'effectivement, la violence aujourd'hui, c'est l'un des principaux sujets de préoccupation des Équatoriens. Et notamment parce qu'elle a explosé dans les dernières années, et elle a explosé à cause du narcotrafic. Parce que ce qui s'est produit, c'est que l'Équateur est devenu non pas le lieu où se produit la cocaïne, mais le lieu d'où l'on exporte la cocaïne qui vient de Colombie et du Pérou.
Oui, c'est une position difficile d'être entre ces deux pays.
Exactement.
Les gares sont essentielles.
Absolument, et dans les dernières années, il s'est passé des choses qui ont amené à ce que ça devienne vraiment la plaque tournante. On dit, le président d'ailleurs, Noboa d'Équateur, dit que c'est 70% de la cocaïne passe par l'Équateur, vers bien sûr les marchés de consommation, et notamment l'Europe. Alors il y a une des raisons, c'est déjà ça, c'est la demande mondiale. En France, dans les 10 dernières années, la consommation de cocaïne, elle a doublé.
On ne peut pas faire litière de la responsabilité des consommateurs,
absolument,
c'est ce que vous nous dites.
On ne peut pas faire litière de cela. Et puis, il s'est passé aussi des choses. Le Covid a beaucoup désorganisé pendant quelques temps les filières. Et puis, le fait qu'en Colombie, il y a eu un accord politique avec les FARC, qui dominait la culture de la coca, a aussi changé le marché de la cocaïne et les responsables de ce marché. Et puis les cartels sont arrivés, parce qu'il n'y avait pas vraiment des cartels en Équateur, naguère. Les cartels mexicains, les mafias albanaises sont arrivés. Et puis il y a quelque chose qui est un atout, c'est terrible à dire, c'est le dollar. Le dollar, c'est la monnaie de l'Équateur.
Depuis le début de notre siècle.
Absolument, depuis l'an 2000. Et effectivement, le dollar, ça permet de blanchir plus facilement l'argent dès lors qu'on est avec cette monnaie-là. Et l'Équateur, en plus, a de bonnes routes, une côte assez longue où peuvent partir des bateaux. Il y a plein de raisons qui font que le trafic de cocaïne s'est donc accru, les gangs sont arrivés et la criminalité a explosé puisque aujourd'hui elle atteint presque 50 homicides pour 100 000 habitants, c'est-à-dire 8 ou 9 fois plus qu'il y a moins de 10 ans.
Elle est donc au centre naturellement des débats politiques, yes, particulièrement vivants actuellement puisque nous nous parlons entre les deux tours d'une élection présidentielle. Il faut le rappeler, Yves Saint-Jour.
Absolument, on est entre les deux tours de l'élection présidentielle. Le président sortant, le jeune Daniel Noboa, étant arrivé en tête, mais d'une si courte tête, quelques milliers de voix, face à la candidate qui s'appelle Lucia González, qui est la candidate du courant de l'ancien président Correa qui a marqué entre 2007 et 2017, vraiment qui a marqué profondément la politique de l'Équateur parce que ça a été un président de grands changements constitutionnels et puis
accusé de corruption et aujourd'hui voilà, réfugié en Belgique
absolument.
Alors Yves Saint-Jour, il faut que nous présentions ce pays dont la réalité physique, géologique et même politique n'est peut-être pas présente à l'esprit de tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent.
C'est un petit pays en Amérique latine.
La moitié de la France.
C'est 5 fois moins que ses deux voisins, 4 à 5 fois moins que la Colombie et le Pérou. Et puis 30 fois moins que le Brésil. Et donc, c'est un petit pays. Mais alors, il a des caractéristiques intéressantes parce que il est, si j'ose dire, ramassé. Vous avez les trois régions bien déterminées, proches les unes des autres. La côte, la costa sur le Pacifique, les Andes, avec en réalité de cordillères, et entre ces cordillères, vous avez des vallées, des plateaux, où il y a les grandes vallées où sont les villes, et puis l'Oriente, l'Amazonie équatorienne. Et la distance est-ouest entre ces trois régions naturelles est très courte.
En même temps, elles sont très diversement peuplées. C'est un point important également quant à l'équilibre durable, historique et actuel. Je vois que 42% de la population sont dans les Andes, 53% sur la côte et seulement 5% du côté de l'Amazone.
Oui, et ce qui est très important aussi, c'est que au moment où ce pays devient indépendant, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que les deux tiers vivent dans les Andes, et il y a très peu de gens sur la côte, et presque personne aussi en Amazonie.
Il faut glisser peut-être un mot sur les îles Galapagos, sont célèbres, font partie d'une mythologie, à 1000 kilomètres.
À 1000 kilomètres des côtes, à peu près sur l'équateur, et donc on est vers l'ouest.
De très belles tortues, de très beaux oiseaux.
Voilà, de très belles tortues et des oiseaux très importants, les pinsons, puisque Charles Darwin, qui va rester quelques semaines aux îles Galapagos, va étudier le bec de ces pinsons et montrer que ces pinsons, 13 types de pinsons, se sont adaptés en réalité en fonction de leur nourriture, de leur façon d'exister, et il va en tirer des éléments importants pour l'origine des espèces. Et l'évolution.
Je vous propose, Yves Saint-Jour, de passer par le truchement de Henri Michaud, le grand poète, écrivain et aussi dessinateur, artiste, qui a publié un des rares livres en français sur l'Équateur, Équador. C'est un livre de 1929, le fruit d'un voyage qu'il avait fait invité par un de ses amis, un poète célèbre là-bas, Gangotenas. Et dans ce livre, c'est là qu'on trouve ce fameux poème de lui, « Je suis né troué ». Il souffle un vent terrible. Ce n'est qu'un petit trou dans ma poitrine, mais il y souffle un vent terrible. Il est dans les Andes, très haut, et c'est de là qu'il regarde le pays. C'est une lecture du magnifique Michel Bouquet dans l'émission Paysage, qui a été diffusée sur France Culture le 9 novembre 1965. Henri Michaud, Équador.
La première impression est terrible et proche du désespoir. L'horizon d'abord disparaît. Les nuages ne sont pas tous plus hauts que nous. Infiniment et sans accident, ce sont où nous sommes les hauts plateaux des Andes qui s'étendent. Le sol est noir et sans accueil. Un sol venu du dedans. Il ne s'intéresse pas aux plantes. C'est une terre volcanique. Nue et les maisons noires par-dessus. Lui laisse tout son nu. Qui n'aime pas les nuages, qu'ils ne viennent pas à l'équateur. Ce sont les chiens fidèles de la montagne, grands chiens fidèles, couronnent hautement l'horizon. L'altitude du lieu est de 3000 mètres, qu'ils disent. Est dangereuse, qu'ils disent, pour le cœur, pour la respiration, pour l'estomac et pour le corps tout entier de l'étranger. Trapu, brachycéphales, à petits pas, lourdement chargés, marchent les Indiens dans cette ville, collés dans un cratère de nuages. Où va-t-il, ce pèlerinage voûté? Ils se croisent et s'entrecroisent et montent. Rien de plus. C'est la vie quotidienne. Quito et ses montagnes. Elles tombent sur lui, puis s'étonnent, se retiennent, calme leur langue, ses chemins. Sur ce, on les pave. Nous fumons tous ici l'opium de la grande altitude, voix basse, petits pas, petit souffle. Peu se disputent les chiens, peu les enfants, peu rient.
Vous sembliez devant moi, Yves Saint-Jour, écouter ce texte avec quelque chose comme du bonheur.
Absolument, parce que je vais avoir beaucoup de mal à dire mieux qu'Henri Michaud ce qu'est cette atmosphère des Andes, de ces hautes vallées, de ces hauts plateaux. Quito est à 2850 mètres d'altitude et effectivement les montagnes tombe sur lui, puisqu'il est au pied d'un volcan qui s'appelle le Pichincha, et qu'on voit les autres volcans autour, notamment le très beau volcan du Cotopaxi, qui est lui pratiquement à 6000 mètres d'altitude. On voit également, quand on est dans Quito, dans ces vallées, on voit effectivement quelle est la place des nuages qui sont dans une disposition par rapport à l'horizon différente de celle quand on est au niveau de la mer.
C'est-à-dire Guayaquil, vous nous rappelez Guayaquil, la différence exactement. Entre les deux grandes villes, le port de Guayaquil et...
Une différence totale entre Guayaquil, zone tropicale humide, c'est vraiment les tropiques humides comme on les imagine, Quito, alors on est dans la montagne, avec les quatre saisons dans une seule journée, et puis on a cette lumière, cette formidable luminosité du soleil ardent, sur Quito, avant que de temps les nuages puissent arriver et puis pleuvoir. Et puis, il y a autre chose qui est parfaitement bien ressentie par Michaud, c'est le silence. Le silence, les gens qui marchent. Il y a une discrétion, une gravité chez les habitants, et notamment chez ces Indiens qu'il décrit.
Une autre chose sur laquelle vous insistez volontiers, c'est la dureté de la nature. Michaud l'évoque aussi d'ailleurs. C'est une nature très présente et souvent très brutale. Des catastrophes sont fréquentes, les tremblements de terre, les El Niño, l'ouragan, etc.
La nature est très dure parce qu'il y a beaucoup de tremblements de terre. Et d'ailleurs, les villes, les grandes villes équatoriennes ont été détruites régulièrement. Riobamba, Latacunga, Quito même, etc. Et puis, il y a la situation de l'équateur par rapport au grand courant du sud, qui arrive du sud, le courant de Humboldt, le courant froid, et puis le fameux El Niño qui arrive. El Niño, ça veut dire l'enfant, c'est-à-dire l'enfant Jésus, c'est-à-dire qui arrive quand c'est catastrophique. Il arrive après Noël, autour de Noël, parce que effectivement c'est le moment du solstice, la convergence intertropicale évolue, etc. Et il y a des inondations, des pluies torrentielles, et c'est donc une nature difficile. Et en même temps, c'est une nature qui impose tout, parce que comme on passe de 0 mètre à 6000 mètres, puis qu'on redescend en Amazonie, tous les étages écologiques sont importants en Équateur. Là, il parle d'une terre noire volcanique, mais un peu au-dessous, il y a encore de la végétation qu'on appelle le páramo. Puis après, il y a les endroits où on cultive, et là, vous avez carrément des terres agricoles où il y a de l'élevage, où il y a des céréales, dont le quinoa, le fameux quinoa, la céréale traditionnelle des Andes. Et puis, tous les étages écologiques comptent, et ils ont compté aussi sur la possession de la terre. Parce que dans les vallées riches et fertiles, bon, se sont installées les grandes haciendas, les latifundias, les grandes propriétés, où on fait des céréales, de l'élevage. Quand je dis les vallées, on est à 2500 mètres d'altitude, 2800 mètres d'altitude, 3000 mètres d'altitude. Se sont installées les grandes haciendas, les latifundias, et puis au fur et à mesure qu'on monte, alors on trouve les communautés indiennes qui ont été progressivement repoussées vers les parties les plus hautes.
Progressivement, oui, il faut que nous revenions plus loin en arrière, Yves Saint-Jour, pour évoquer l'Équateur avant l'arrivée des Européens.
Il y a en Équateur, sur le territoire de l'Équateur d'aujourd'hui, il y a de très nombreuses cultures qui se sont développées depuis très longtemps, puisqu'on trouve des céramiques...
Valdivia, non ?
Des Valdivia, voilà.
Qui remontent à 4000 avant Jésus-Christ.
Absolument, absolument. Et
des cultures très riches.
Très riches, déjà des sociétés.
Y compris en Amazonie, d'ailleurs.
Compris en Amazonie.
Nous avions fait une émission avec Stéphane Rostin, il y a assez longtemps, qui est en ligne. Je ne parle pas de Rostin, je parle de l'émission.
Stéphane Rostin est vraiment pionnier. Il a démontré à quel point l'Amazonie était non seulement peuplée, il y a trouvé énormément de traces de l'occupation humaine.
Dans les 20 dernières années, on a beaucoup.
Dans les 20 dernières années, vraiment, c'est tout à fait sensationnel. Et ça renouvelle entièrement notre regard sur cette région qui était, avant l'arrivée des Espagnols et des Portugais, qui était peuplée avec des cultures, etc. Mais enfin, pour arriver plus près...
L'Empire Inca.
Voilà, l'Empire Inca, c'est-à-dire que dans le troisième quart du 15e siècle, la partie de l'Équateur d'aujourd'hui est conquise par les Incas, ça devient le nord de l'Empire, Et c'est tellement le nord de l'Empire que l'avant-dernier Inca avant les Espagnols, Huayna Capac, naît dans une ville qui s'appelle Cuenca aujourd'hui, qui s'appelait Tomebamba alors.
En Équateur.
En Équateur, absolument. Cuenca, c'est la troisième ville d'Équateur. Elle règne sur le sud de l'Équateur. Et taille de l'Empire, le fait qu'il s'étende désormais sur des milliers de kilomètres, des questions de lignage aussi, des questions de rivalité, font que, quand les Espagnols arrivent, eh bien, on est à la fin d'une guerre civile qui a opposé deux des fils de Huayna Capac, l'un qui représente en quelque sorte le nord de l'Empire, c'est-à-dire la partie qui est aujourd'hui l'Équateur.
Mais qui n'a été conquise qu'à la fin du XIVe siècle.
C'est ça, qui a été conquise seulement à la fin du XIVe siècle, mais où Huayna Capac crée non pas une nouvelle capitale, parce qu'il faut, c'est un empire décentralisé, ça n'est pas tout à fait comme aujourd'hui, mais en tout cas, un lieu, et notamment Quito, à ce qui est Quito aujourd'hui, un lieu très important de cet empire.
Ça emmène, pour les plus gamins d'entre nous, vers le Temple du Soleil, immortel chef-d'œuvre d'Hergé.
Avec Ráscar Capac, l'Inca imaginaire.
Je vais vous proposer, Yves Saint-Jour, un extrait de la relation véridique de la conquête du Pérou par François Pizarre. C'est un texte de l'explorateur et historien Francisco de Xerès, qui était secrétaire personnel de Pizarre. Et c'est un extrait de l'émission « Terre des merveilles » de Marie-Hélène Freyssé, diffusée sur France Culture le 19 juin 1984. Rencontre de deux civilisations. Écoutons.
Dès que l'avant-garde commença à entrer dans la place, une troupe d'Indiens couverts d'une espèce de livrée de diverses couleurs, disposées comme les cases d'un échiquier, marchaient en tête pour balayer la route. Après eux venaient en chantant et en dansant trois autres pelotons vêtus d'une façon différente, puis une multitude de gens couverts d'armures portant des couronnes d'or et d'argent. Au milieu d'eux était Atahualpa, dans une litière garnie de plumes de perroquets de toutes sortes de couleurs et enrichie de lames d'or et d'argent. Un grand nombre d'Indiens le portaient sur leurs épaules. Une multitude de gens divisés en colonnes marchaient ensuite et portaient des couronnes d'or et d'argent. Quand Atahualpa fut arrivé au milieu, il fit arrêter tout le monde et il ordonna que l'on continuât de tenir élevée sa litière et les autres. Un chef indien de l'avant-garde monta à la forteresse où était l'artillerie. Dès que le gouverneur le vit, il demanda à frère Vincent de Valverde s'il voulait aller parler à Atahualpa avec un truchement. Celui-ci y consentit et s'avança en tenant un crucifix d'une main et la Bible de l'autre. Il passa au milieu des Indiens, parvint jusqu'à Atahualpa et s'exprima ainsi par la voix de son interprète. « Je suis un prêtre de Dieu, j'enseigne aux chrétiens les choses du Seigneur et je viens les enseigner à vous aussi. » J'enseigne ce que Dieu nous a appris et ce qui est contenu dans ce livre. C'est en cette qualité que je te prie, de la part de Dieu et des chrétiens, d'être leur ami. Va parler au gouverneur qui t'attend. Atahualpa demanda qu'on lui donnât le livre pour le voir, et on le lui remit fermé. Comme il ne pouvait pas l'ouvrir, le religieux étendit le bras pour lui montrer comment il fallait s'y prendre. Atahualpa lui donna avec dédain un coup sur le bras, ne voulant pas le permettre, et en s'efforçant de l'ouvrir, il y réussit. Il ne s'étonna pas de voir les caractères ni le papier, comme les autres Indiens, et il le jeta à 5 ou 6 pas de lui. Il répondit avec beaucoup d'orgueil en ces termes au discours que le moine lui avait fait entendre par le truchement. « Je suis bien instruit de ce que vous avez fait sur votre route, et comment vous avez traité mes caciques et pillé les maisons. » Je ne bougerai pas d'ici que vous ne m'ayez tout rendu.
Yves Saint-Jour, l'événement ne se passe pas sur le territoire actuel de l'Équateur.
Non,
mais...
non, il se passe à Cajamarca, qui est une ville du nord du Pérou. Mais c'est vrai que Atahualpa représente le nord de l'Empire, en quelque sorte, qui vient d'emporter la guerre contre la partie centrale et notamment et son demi-frère Huascar, et c'est le nord qui vient de gagner un petit peu contre le sud. Il faut savoir en plus que dans la civilisation inca, chez les Incas, il y a toujours une idée du haut et du bas. Du haut et du bas dans les communautés, du haut et du bas dans les villes, et il y a aussi un peu du haut et du bas en l'occurrence. Et donc
aujourd'hui encore, on en sent la présence spécifique en Équateur.
Ah oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a encore ces communautés avec des étagements et des séparations entre les différents groupes.
À la fois symbolique donc et concret géographiquement.
Voilà, exactement. Mais c'est plus présent quand même au Pérou ou en Bolivie. Donc Atahualpa a gagné la guerre. Il est l'Inca, on le voit décrit ce jour où Pizarro, par un coup très rapide, très efficace, avec ses chevaux, ses armes à feu, va saisir Atahualpa à la suite de cette Bible lâchée et va donc...
Il faut savoir que les Incas ne connaissaient pas le cheval. Par conséquent, non. L'Inca était obligé pour passer ses ordres de faire courir des athlètes à toute vitesse pendant 50 kilomètres, puis il passait le message à un suivant.
Exactement, il s'appelait Chasqui, et il transportait effectivement les messages, ou c'était les quipus camayoc qui transportaient les quipus. Et d'ailleurs, ce qu'on voit encore en Équateur un petit peu, et dans les autres régions de cet ancien empire inca, ce sont les routes royales du temps des Incas, qui ont été reprises un peu par les routes ensuite coloniales, qu'on appelle le Capacñán, et qui effectivement irriguait tout cet empire.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Venons-en maintenant, Yves Saint-Jour, à la période coloniale, précisément pour aller débusquer les éventuels éléments qui peuvent annoncer la complexité de l'Équateur d'aujourd'hui, puisque nous consacrons cette émission à l'Équateur.
Ce qui s'est produit, c'est que une fois les Espagnols victorieux, ayant vaincu l'Inca, on rappelle que Atahualpa, quelques mois après, a été exécuté, hein, et l'ensemble de cette région andine a été organisé par l'Espagne et a été créé une vice-royauté à Lima. Et dans cette vice-royauté, une audience, l'audience de Quito, économique, artistique, politique et même judiciaire, puisque l'audience est aussi, ce sont aussi des tribunaux, et qui a couvert, pas tout à fait exactement comme aujourd'hui, mais le territoire de l'Équateur d'aujourd'hui. Et cette audience a eu très vite une grande autonomie et surtout pendant tout le XVIIe siècle, une grande prospérité, parce que se sont installés, on en a parlé tout à l'heure, dans les vallées, des grandes propriétés. On parle de Quito toujours vert, des grandes propriétés où on cultivait plutôt les céréales type le blé ou le quinoa, comme je disais. Et puis, on pratiquait l'élevage, d'où un travail sur le cuir. Et puis, on avait de la laine et il y avait beaucoup d'ateliers textiles, ce qu'on appelle des obrajes. Et Quito produisait pour l'ensemble de la région. Et donc, ça a été à la fois un lieu de production, un lieu, un certain type de prospérité, une organisation évidemment qui était une organisation liée à la domination des Espagnols, avec les Indiens qui étaient assujettis dans les haciendas, avec une expression artistique et une expression intellectuelle. Une belle expression artistique, une école de Quito, par exemple. Et puis intellectuelle, parce que beaucoup de ces propriétaires terriens n'étaient pas seulement des personnes qui étaient venues d'Espagne, des militaires, enfin, ou des conquistadores, mais aussi des ordres religieux.
Déjà, on trouve une opposition qui dure encore entre l'influence des religieux, des jésuites en particulier,
exactement,
et puis les forces civiques ou civiles pour résister à leur emprise.
Les jésuites, qui arrivent tout à fait à la fin du XVIe siècle, s'imposent, et jusqu'à leur expulsion, ils sont expulsés en 1767, sont d'immenses propriétaires terriens. Ils ont 75 haciendas dans l'audience de Quito, avec des milliers et des milliers d'hectares, des milliers, des dizaines de milliers d'Indiens, des centaines d'ateliers textiles. Ils sont extrêmement riches, mais ils sont aussi doté de grandes bibliothèques. C'est aussi un dispositif intellectuel.
On sent encore aujourd'hui ce côté binaire.
Absolument.
Qui se traduit peut-être aussi, qui se traduit également en termes politiques.
Absolument, parce que ce qui s'est produit, c'est qu'une tradition religieuse conservatrice, mais pas toujours conservatrice, vous avez raison de poser la question. Il y a eu un populiste qui a été 5 fois président de l'Équateur entre 1934 et 1972. 4 fois sur 5, il a été renversé. Mais ce populiste, il parlait toujours de Dieu, des principes chrétiens, de la providence. C'est-à-dire que ce mouvement religieux, il va être très important au moment de l'indépendance, il va être très important au 19e siècle. Vous avez parlé de Garcia Moreno tout à l'heure, et puis il reste quelque chose qui est un petit peu consubstantiel à l'Équateur. Mais ça n'empêche pas l'Équateur d'avoir connu tout ce qu'ont connu les autres pays, c'est-à-dire un grand mouvement libéral qui aboutit d'ailleurs à la désamortisation des biens du clergé, ou tout à fait à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Et puis le socialisme, tout a existé. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu une place de la religion importante.
La devise de l'Équateur est significative puisque c'est la suivante: Dieu, patrie, liberté.
On est face à une tradition de long terme, et puis la patrie, c'est-à-dire évidemment l'indépendance du pays, et puis la liberté. Et il ne faut pas oublier, pour dire un mot de la religion encore, que l'Amérique, c'était pour beaucoup de prêtres, mais aussi d'intellectuels, un lieu où on allait faire le monde nouveau. C'était pas seulement le nouveau monde, c'était le monde nouveau. Ça va être le lieu de la religion, d'une religion purifiée, etc. Donc, il y a eu des projections intellectuelles et politiques, donc, sur ce que pouvait être l'Amérique. Et comme à Quito et dans l'espace équatorien, il y avait beaucoup de clercs, eh bien, ces idées ont prospéré.
Vous évoquez d'ailleurs dans un de vos écrits, Saint-Jour, cet archevêque qui a été empoisonné par le vin de Metz.
Absolument.
Cela illustre en somme ce que vous venez de dire.
Il y avait, en 1878, l'archevêque de Quito, Checa Ibarba, il a été empoisonné le jour du Vendredi Saint par du vin de Metz. On dit que le Vendredi Saint, c'est le seul jour où le vin de Metz n'est pas consacré.
Ouf.
J'avoue que je ne suis pas expert. Et donc, oui, parce qu'il y avait en réalité des luttes très importantes, y compris au sein de l'Église d'ailleurs.
Pendant la période coloniale arrive un événement fondamental, c'est le voyage de la Condamine qui est envoyé par la France pour mesurer l'Équateur. Pendant ce temps, on envoie aussi Maupertuis vers le nord qui revient déguisé en lapon et qui apporte des informations précieuses. Et pour ce qui est de l'Équateur, c'est-à-dire de la ligne équatoriale, voici la Condamine.
C'est effectivement une mission française d'académiciens, puisqu'il y a un autre académicien qui s'appelle Bouguet, un autre Godin, et il y a Jussieu aussi, un des Jussieu.
Godin, c'est Louis Godin qui a organisé toute l'affaire.
Voilà, exactement. Et Jussieu qui, d'ailleurs, va identifier la feuille de coca, pour revenir sur l'histoire du tout début. Et donc, la Condamine va mesurer le méridien, donc avec ses académiciens, avec aussi deux Espagnols qui sont très importants, Jorge Juan et Antonio de Ulloa, qui le surveillent un petit peu. Alors tout ça est permis parce que les Bourbons sont désormais sur le trône d'Espagne, et même si ça a été assez compliqué pour qu'ils acceptent que des Français viennent, et pendant en réalité 10 ans, la Condamine va rester en Équateur, il va mesurer avec les autres l'arc de méridien, il va décrire le pays et ils vont faire des calculs qui vont être très proches de la réalité. Et ils vont contribuer à la démonstration que Newton avait raison et que la Terre était aplatie au pôle. Parce que c'était ça, la dispute.
En même temps, la Condamine nous informe dans son journal de voyage sur le regard qu'un homme comme lui peut jeter sur les populations indigènes. On employait l'expression sans hésiter à l'époque. Écoutez donc cet extrait de L'échappée belle de Marie-Hélène Fraissé sur France Culture le 21 juin 1985 avec la voix de la Condamine devant les indigènes.
Le 27 juillet 1743, au matin, Nous abordâmes à la mission de Saint-Joaquin, composée de plusieurs nations indiennes et surtout de celle des Omaguas, nation autrefois puissante et qui peuplait encore il y a un siècle les îles et les bords de l'Amazone dans la longueur environ 200 lieues au-dessous du Napo. Le nom d'Omaguas dans la langue du Pérou, ainsi que celui de Cambvas que leur donnent les Portugais du Pará dans la langue du Brésil, signifie « tête plate ». En effet, ces peuples ont la bizarre coutume de presser entre deux planches le front des enfants qui viennent de naître pour leur procurer cette étrange figure et pour les faire mieux ressembler, disent-ils, à la pleine lune. Les Omaguas font grand usage de deux sortes de plantes, l'une que les Espagnols nomment floripondio, l'autre qui dans la langue Omagua se nomme curupa et dont j'ai rapporté la graine. L'une et l'autre sont purgatives. Ces peuples se procurent par leurs moyens une ivresse qui dure 24 heures, pendant laquelle ils ont des visions fort étranges. Tous les Indiens américains des différentes contrées que j'ai eu occasion de voir dans le cours de mon voyage m'ont paru avoir certains traits de ressemblance les uns avec les autres. J'ai cru reconnaître dans tous un même fond de caractère. L'insensibilité en fait la base. Je laisse à décider si on la doit honorer du nom d'apathie ou la vilir par celui de stupidité. Elle naît sans doute du petit nombre de leurs idées qui ne s'étend pas au-delà de leurs besoins. Gloutons jusqu'à la voracité quand ils ont de quoi se satisfaire, sobres quand la nécessité les y oblige, jusqu'à se passer de tout sans paraître rien désirer, pusillanimes et poltrons à l'excès si l'ivresse ne les transporte pas, ennemis du travail, indifférents à tout motif de gloire, d'honneur ou de reconnaissance, incapables de prévoyance et de réflexion, se livrant quand rien ne les gêne à une joie puérile, qu'ils manifestent par des sauts et des éclats de rire immodérés, sans objet et sans dessein. Ils passent leur vie sans penser et ils vieillissent sans sortir de l'enfance dont ils conservent tous les défauts.
Entendu d'aujourd'hui, cela paraît un peu rude.
C'est plus que rude, mais il faut bien entendu penser à l'importance que ce genre de description a eue. Parce que dans ce mouvement des Lumières, de l'encyclopédie, ça, il y a une espèce d'anthropologie physique, d'anthropologie qui va avec les travaux d'autres, évidemment, explorateurs, ou les travaux de Buffon, ou les travaux va avoir une très grande importance sur la catégorisation des personnes.
Les traces en sont encore vivantes aujourd'hui.
Les traces en sont encore vivantes aujourd'hui, bien sûr. Et la Condamine, qui fait des récits ensuite très détaillés, et c'est un homme qui s'est popularisé, qui sait ce qu'il écrit, ce qu'il fait. Il va être à l'Académie française, ça va être un homme important, ce genre de texte a son importance. Alors c'est un texte qui est par ailleurs, c'est pas le seul texte de ce type, hein. La Condamine, par ailleurs, est un homme de son temps, et donc faut l'admettre. Et puis, par ailleurs, il va décrire, il va découvrir, il va être extraordinairement perspicace. C'est lui qui va effectivement identifier la quina, qui va donc permettre la quinine, qui va identifier le latex.
C'est une écorce, là.
Une écorce, absolument, dont on connaît, quand on voit les effets
bénéfiques
contre les fièvres. Il va avoir cet esprit encyclopédique en même temps, mais avec ces caractères-là.
Alors, le 19e siècle après l'indépendance, on trouve du côté de l'Équateur, Yves Saint-Jour, auquel nous consacrons l'émission ce matin, une histoire assez particulière. Je suis sensible au fait que vous restituez ce moment assez curieux d'une république intégriste de Quito. C'est un évêque qui va, entre 1809 et 1812, présider au destin de l'État, brièvement.
Alors effectivement, l'indépendance n'est pas tout à fait ce qu'on croit en Équateur, puisque en 1808, Napoléon et la guerre d'Espagne, ça crée un trouble dans l'ensemble de l'Empire, et dans un certain nombre de villes, presque toutes les capitales d'audience, de vice-royaume, etc. À ce moment-là, Quito n'est plus dans le vice-royaume de Lima et du Pérou, mais dans le vice-royaume de Santa Fe de Bogota, dans le royaume de Nouvelle-Grenade. Eh bien, il y a des soulèvements et des déclarations d'indépendance. C'est ce qui a lieu à Quito en 1809, puis en 1810, mais c'est au nom du roi Ferdinand VII. C'est une république, effectivement, dont le tiers des participants sont des clercs, sont des prêtres. C'est une république présidée par l'évêque de Quito, qui s'appelle Cuero y Caicedo. Et donc, c'est pas encore tout à fait les idées modernes.
Donc la vraie naissance, c'est au moment de la libération par Bolivar. Il y a ce texte fameux de son délire sur le Chimborazo. On est là sur le point culminant de l'Équateur. Donnez-en-nous donc le goût, la saveur, Yves Saint-Jour.
Je venais enveloppé dans le manteau d'iris de l'endroit où le vaste Orénoque paie son tribut au dieu des eaux. Alors, il vient du Venezuela, hein, Bolivar. J'avais visité les sources enchantées de l'Amazone et je voulus monter jusqu'au belvédère de l'univers. Je cherchais les traces de Lacondamine et de Humboldt, qui lui aussi avait...
Le grand explorateur, voilà. Allemand. Alexandre de Humboldt.
Alexandre de Humboldt, dont tout le voyage en Amérique est écrit en français. Je l'ai suivi, intrépide. Rien ne m'arrêta, j'atteignis la région glaciale. Les terres me suffoquaient. Et donc, c'est tout son délire où il explique qu'il est placé au-dessus des hommes et il parle en quelque sorte, il lit l'histoire du passé et les pensées du destin dans une espèce de dialogue avec le temps.
Ensuite, le pays est dirigé par des officiers de son armée, c'est le fameux Sucre en particulier.
Et c'est là qu'on va toucher à quelque chose de très important pour l'Équateur. Pour la suite. Effectivement, après l'échec de la République de Quito, ça s'arrête. Puis il y a des mouvements à Guayaquil.
Le port.
Le port. Et finalement, c'est par le nord qu'arrive véritablement l'indépendance. Et ses officiers, Sucre, Flores, qui va être ensuite président de l'Équateur, ils font des alliances. C'est des officiers vénézuéliens. Ils se marient avec des aristocrates de Quito. Et ils vont essayer de rendre compatible Guayaquil, la côte et déjà la production de cacao, ces choses-là, et ce qui se passe dans les Andes.
On peut dire, Yves Saint-Jour, que l'indépendance de l'Équateur se fait en somme par étapes.
Oui, elle se fait par étapes. Il y a ce premier cri en 1809, et puis en 1822, c'est la bataille du Pichincha, sur les pentes au-dessus de Quito, c'est Sucre. Et puis en 1830, c'est là que l'Équateur devient indépendant tout seul, parce qu'avant, il est dans la Grande Colombie. Et moi, je voudrais juste insister sur un point. Pourquoi ça s'appelle l'Équateur? Parce que ça s'appelait l'audience de Quito. Et quand ils se réunissent en 1830 et qu'ils disent « on ne va pas rester dans la Grande Colombie qui réunissait le Venezuela, la Colombie et l'Équateur », comment choisir un nom pour ce pays?
Alors, ne nous laissez pas dans la certitude.
Eh bien, ils choisissent le nom
angoissé
que Lacondamine a choisi. C'est-à-dire, il dit « voyage fait sur l'Équateur ». L'appeler Équateur, et c'est repris par les deux officiers espagnols dont je vous parlais tout à l'heure, Ecuador, eh bien, c'est ce qui ne divise pas trop, d'un côté Guayaquil, de l'autre Quito, et encore Cuenca au sud, parce que effectivement, c'est plus l'audience de Quito, mais c'est l'Équateur. Et c'est le cœur du problème équatorien, c'est-à-dire écartelé entre ces régions qui n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes traditions, les mêmes et qui doivent composer. Et pendant 200 ans, elles vont composer.
La nation écartelée, c'est pourquoi j'ai choisi ce titre pour notre rencontre, Yves Saint-Jour. Alors, il faut courir la poste pour parcourir le 19e siècle. Oui. Ce n'est pas tellement difficile parce qu'on ne peut pas passer en revue tous les présidents successifs. Mais on peut peut-être définir les caractéristiques de ce type de régime, y compris celui de Moreno que j'évoquais en commençant et qui avait voulu demander à Napoléon III de devenir un protectorat français.
C'est un pays très faible. Beaucoup de guerres civiles, beaucoup, effectivement, de forces centrifuges. Et puis, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, l'indépendance précède la constitution d'un État et précède la constitution d'une nation. Et donc, la difficulté, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va falloir fonder l'État et il va falloir fonder la nation. Alors vous avez des personnes qui vont exercer des tâches nationales, si j'ose dire. Et parmi eux, parmi ces personnes, il y a Garcia Moreno, qui est un moment dans l'histoire de l'Équateur, parce que lui, il est modernisateur, il fait des écoles, il fait des routes, il crée un observatoire, il crée des académies, etc. Mais il le fait pas à la façon moderne. Il dit, au fond, pour structurer ce pays, il y a que l'Église qui peut le faire. Et donc, c'est un modernisateur, mais qui s'appuie sur l'Église, mais totalement sur l'Église, qu'il réforme, parce qu'il met l'Église au service de son projet.
Et vous imaginez que Napoléon III pourrait incarner ce genre de soutien?
Évidemment, on était dans cette idée d'une puissance latine, d'une puissance catholique. On était quand même dans cette logique-là. Vous savez que c'est au bord de la Seine qu'a été inventé le terme Amérique latine dans ces époques-là. Donc, c'est pas complètement absurde. Et d'ailleurs, il y aura le fameux dessin du grand dessin du règne qui était le Mexique sous le règne de Napoléon III. Mais évidemment, ça ne marche pas. Il a beau écrire en français, décrire son pays, entre guillemets, essayer de le promouvoir, ça ne va pas marcher.
Quelque part dans vos écrits, Nif Saint-Jour, vous évoquez la mort de ce président Garcia Moreno, qui est quasiment un suicide.
Oui, parce que effectivement, il prévoit sa montée au supplice. Il sait qu'il va être tué. Il se sacrifie. Il y a un côté sacrificiel dans sa démarche. Et de fait, il est assassiné.
Embaumé ensuite.
Et puis embaumé.
Notre chef de poste, le ministre de France, en donne une description terrifiante.
Terrifiante parce que, comme chef de poste, il est obligé d'assister à la cérémonie funèbre dans la cathédrale où il est exposé, embaumé dans son grand uniforme, et le consul général dit qu'il est déjà en putréfaction et que ce spectacle est effrayant.
Terciopelo negro, guambrita y tengo cortinas. De terciopelo negro, guambrita y tengo cortinas. Para enlutar mi pena, guambrita y si tú me olvidas. Para enlutar mi pena, guambrita y si tú me olvidas. Olvidas, Blanca Susana, si tú me olvidas, Blanca Susana, si la Susana es blanca, guambrita y tú eres morena, si la Susana es blanca, guambrita y tú eres morena.
Qu'avons-nous entendu, Yves Saint-Jour?
Une magnifique chanson qui s'appelle « De terciopelo negro », de velours noir.
Vous nous l'avez demandé, ce n'est pas un mystère.
Oui, parce que moi j'ai vécu là-bas il y a presque 50 ans. Et donc c'est une très belle chanson qui parle d'amour, évidemment. Et elle est chantée par Carmela en 1960. Et c'est une chanson qui parle des lys blancs et du velours noir qui endeuille ma vie si tu m'oublies.
No me lo diste, te pedí un vaso de agua, guambrita.
Parlons pour finir, si vous le voulez bien, Yves Saint-Jour, au terme de cette conversation consacrée à l'Équateur, la nation écartelée, parlons des cycles économiques qui sont de grande importance, qui conduisent aussi à une réflexion sur les relations avec les États-Unis d'Amérique. L'actualité également, à cet égard, nous incite à le faire spécialement.
Alors effectivement, les cycles économiques, en particulier à partir du du 19e siècle, parce qu'avant, il y a déjà des productions de cacao, il y a déjà ces productions que j'évoquais. C'est fondamental. Le cacao, entre 1870 et la guerre de 14, l'Équateur devient le premier producteur du monde. Il fait 20 à 25% de la production mondiale, et cela dans les mains de quelques familles, hein, de quelques familles immensément riches, et dont les rejetons, d'ailleurs, naissent plutôt à Paris et font leurs études à Sciences Po.
Et possèdent d'assez beaux immeubles dans notre capitale.
Voilà, et ils ont aussi leurs immenses haciendas ou leurs immenses plantations sur la côte équatorienne, très près de Guayaquil. Ça, c'est vraiment une époque où la richesse arrive, et grâce à cette richesse, le développement d'infrastructures et toujours le binôme entre le haut et le bas, entre la Sierra et la côte, qui peut être convulsif. Après, concurrence de cacao d'Afrique, maladie du cacao, ça s'appelle le balai de la sorcière, cette maladie.
Nos petits déjeuners voilà. Se tournent moins vers l'Équateur. Et...
plus vers le Ghana, la Côte d'Ivoire, etc. Mais on passe à un deuxième cycle, qui est celui de la banane. Et la banane va permettre, notamment autour, après la Deuxième Guerre mondiale, et notamment en lien avec de grandes sociétés américaines,
United Fruit,
etc., deuxième cycle, deuxième aussi aléa, parce que les prix montent ou descendent, d'où des effets politiques importants. Et puis arrive le camaron, la crevette, et puis les fleurs coupées, et puis le pétrole.
Il y a 50 ans.
Voilà, le donc pétrole arrive il y a 50 ans.
Donc c'est une économie extractive.
C'est une économie extractive, il y a très peu d'industrie.
Et qui est dans la dépendance d'autres pays et dans la division internationale du travail.
Exactement, avec les difficultés que cela porte, notamment le pétrole, dont les prix ont beaucoup varié. Et quand les prix s'effondrent, quand ça représente plus de la moitié des exportations du pays, ça créer une crise sociale, des difficultés. Mais moi, je voudrais insister sur le fait que le pétrole a permis, à partir des années 70, de transformer complètement ce pays, parce que on a commencé à vraiment le rendre plus compact. Il y a des routes partout, il y a des infrastructures, etc. Et donc, au fond, l'Équateur, qui est écartelé, est devenu moins écartelé. Toujours aussi compliqué, mais moins écartelé. Et par exemple, c'était très facile à partir des années 70-80 pour les Amérindiens de l'Orient, de l'Amazonie, d'accéder à la capitale. Parce que, comme je vous ai dit, c'est plus...
L'essence était très bon marché.
Voilà.
Comme au Venezuela. Mais est-ce qu'il y a eu une captation par une élite, là encore, des bénéfices du pétrole, comme au Venezuela?
Oui, il y a eu une captation par une élite, mais il y a eu quand même un certain nombre de politiques nationales, notamment d'ailleurs sous le président Correa, mais pas seulement. Et donc, voilà, cette économie de cycle qui est surtout sur la côte, elle crée ses problèmes sociaux, en même temps, elle a permis à certains moments le développement du pays.
Un dernier mot sur la géographie du pays que vous évoquiez, Yves Saint-Jour, en commençant. Les frontières ont peut-être surpris de savoir que leur définition n'a été définitive qu'en 1999, et qu'il y a eu toute une série de guerres pour les frontières de l'Équateur.
Oui, parce que...
Très tardivement encore.
C'est très tardivement, parce que l'Équateur, on l'a vu, la Condamine, il va découvrir l'Amazone par l'audience de Quito. L'Amazone est découverte par Aureliana, par une expédition d'Aureliana et du frère de Pissarro en 1542. C'est-à-dire, c'est un accès facile vers l'Amazonie. D'où l'idée que l'audience de Quito avait, comme tout ça était presque vide du point de vue de la population des Espagnols, on considère, alors il y a des débats juridiques très compliqués.
Et des guerres qu'on a oubliées.
Et des guerres. Beaucoup de guerres. Il y en a une. Alors il y en a plusieurs, dont une en 1941 avec le Pérou.
On n'y a pas prêté l'attention qu'on aurait prêté si la situation de la planète avait été différente.
Absolument. Mais qui est réglé d'ailleurs par un arbitrage où le Chili, le Brésil, l'Argentine agissent. Car
Une vraie guerre. Et ensuite d'autres.
Une nouvelle en 1980, 81, et encore une dernière en 1995. et qui finit par réduire l'espace équatorien à ce qu'il est aujourd'hui, et qui correspond à peu près à ce que le protocole qui avait été signé en 1942, le protocole de Rio de Janeiro, lui donnait.
Donc, avec des frustrations nationales avec...
Il y a eu beaucoup de frustrations nationales il y a 50 ans, mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation différente, parce que c'est la paix, parce qu'il y a un libre accès au cours de l'Amazone, et parce que c'est les pays latino-américains, qui sont extrêmement violents, on en a parlé, ils se font plus la guerre, ils se font plus la guerre depuis longtemps.
Merci beaucoup Yves Saint-Jour de nous avoir conduits ce matin en Équateur pour éclairer le fondement, l'histoire, la réalité, la complexité de ce pays peu connu en France. Vous aviez écrit d'ailleurs sur l'Amérique latine et notamment sur l'Équateur, voici bien longtemps déjà, puisque vous aviez publié avec Marie-Danielle Demelas, votre complice de l'époque, un livre consacré à la vie quotidienne en Amérique du Sud, au temps de Bolivar, paru chez Hachette, collection fameuse que Carcopino avait inaugurée à propos de la Rome antique, que vous avez publié en 1987 chez Hachette. Vous avez donné aussi un livre qui mériterait vraiment d'être réédité avec la même Marie-Danielle Demelas et qui s'appelait « Jérusalem et Babylone, politique et religion en Amérique du Sud ». Pourquoi Jérusalem et Babylone ?
Précisément, ce que nous avons dit, c'est-à-dire qu'il y avait dans l'esprit des Équatoriens, que ce soit Garcia Moreno ou Espejo à la fin du XVIIIe siècle, cette idée qu'il y avait deux cités en quelque sorte, qui étaient évidemment la cité satanique, si j'ose dire, et puis Jérusalem, et que il fallait essayer de construire. La politique était marquée par cette vision des deux cités.
Ce livre est consacré spécifiquement à l'Équateur du XVIIIe au XIXe siècle, aux éditions Recherches sur les civilisations. Et puis dans la prestigieuse collection si utile pour tant d'étudiants Nouvelle Clio, aux presses universitaires de France, vous avez avec François Chevalier donné un volume consacré à l'Amérique latine de l'indépendance à nos jours. Et vous souhaitiez, à juste titre, Yves Saint-Jour, que nous citions le livre de Florence Tristram, Le procès des étoiles.
Absolument, parce que c'est un livre magnifique qui raconte la mission, la condamine Bouguet-Godin, etc. C'est un magnifique ouvrage sur cette mission qui a duré 10 ans en réalité pour la condamine, hein, et dont le titre sort d'un texte de la condamine. Il explique qu'il a des procès avec tout le monde dans l'audience de Quito, absolument tout le monde, pour 1000 raisons, mais que le seul procès qui l'intéresse vraiment, c'est celui qu'il a avec les étoiles, pour la mesure du méridien.
Enfin, je veux citer le livre de Marie-Danielle Demelas, décidément très compétente, « L'invention politique, Bolivie, Équateur, Pérou au XIXe siècle », toujours aux éditions Recherches sur la civilisation. Vous trouverez d'autres titres, vous le savez, en ligne sur notre site. Je vous consulte pour finir, Yves Saint-Jour. Quelle chanson équatorienne souhaitez-vous que nous mettions en arrière-fond du générique que je vais déployer ?
Alors, un pasillo, qui est une expression musicale typiquement équatorienne, notamment à la fin du siècle dernier, et avec une star du pasillo qui s'appelle Julio Jaramillo. Et on va écouter Nuestro Juramento.
C'est-à-dire ?
Notre serment.
Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más.
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Alexandre Jams à la prise de son, avec Keating Wang à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Delphine André.
Todo el santo que brote de tu tristeza.